Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde la cuisine comme fait culturel majeur. Pendant que Matteo Caranta découpe un bon gâteau que nous dégusterons tout à l'heure, nous accueillons Pierre Hiverna. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
Vous allez nous faire la chronique, la cerise sur le gâteau aux alentours de 12h25 tout à l'heure. Sur quel sujet ?
Je vais vous parler de la profession de boulanger.
Eh bien, à tout à l'heure, 12h25. Cher Matteo, interrompez-vous un instant de couper cette magnifique tourte pour nous dire qui va donc nous raconter sa madeleine aujourd'hui.
Eh bien, ce sera l'écrivain de science-fiction Alain Damasio qui choisit sa madeleine autant pour son contenu que pour son contenant.
Alain Damasio tout à l'heure à 12h15. Et pour notre plat du jour, nous allons parler d'une des épices les plus répandues au monde et l'une des plus consommées. Avant d'être une épice, c'est une plante herbacée à racines tubérisées, originaire des zones tropicales humides d'Inde du Sud. C'est son rhizome aromatique qui donne un condiment. Elle est connue depuis l'Antiquité, elle a été considérée, et elle l'est toujours, comme magique, adulée en Europe. Il en existe toutes sortes, mais son corps est généralement biscornu, d'où son nom en sanskrit qui signifie « en forme de corne ». Elle est utilisée dans la médecine chinoise depuis la nuit des temps pour ses vertus antioxydantes, anti-inflammatoires, digestives, circulatoires, énergisantes et pour sa réputation aphrodisiaque. Mais l'usage qui nous intéresse est gastronomique. On le mange frais, séché ou broyé. À l'occasion de la diffusion ce soir sur France 5 d'un documentaire qui lui est consacré et dont nous sommes partenaires, Zoom sur le gingembre.
Le gingembre, il va vous accompagner tout le long du plat et il va clôturer avec vous. C'est un formidable compagnon. Et moi, je ne comprends pas que pendant tout le 19e siècle et début du 20e, en Europe, on ait pu l'oublier. Quand on rentre dans l'univers des épices, on rentre dans l'univers des parfums. Ça, c'est incroyable parce que on a l'impression que c'est une marmelade de gingembre. Dans lequel on aurait même mis un peu de cacao dedans. Et manifestement, il a été cueilli plus tard dans la saison que celui-là. On parle du terroir. On parle évidemment du savoir-faire, la manière dont il a été travaillé par la personne. Mais il y a aussi il y a une notion de millésime. C'est des crus, c'est comme un raisin, on sait très bien, il est différent tous les ans, le vin est différent tous les ans. Et pourtant, c'est fait exactement de la même manière. Mais le gingembre, c'est pareil. Hein.
La voix du chef Olivier Rollinger qu'on entend dans le documentaire « Le gingembre, une épice magique, point d'interrogation ». Ce documentaire qui sera donc diffusé ce soir sur France 5 et dont nous accueillons les deux réalisatrices, Lisa Fangeau et Hélène Ekman. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce midi. Vous avez donc réalisé ce film et avec nous se trouve la fille de Olivier Rollinger, l'une des enfants, disons, d'Olivier Rollinger, Mathilde Rollinger. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-gérante de l'entreprise Rollinger et responsable des achats des épices, dont le gingembre, et vous nous en avez apporté quelques extracts, on va dire. Alors, est-ce que c'est un condiment qui est devenu incontournable, le gingembre, Lisa Fangeau ?
Bah oui, je pense. D'abord parce que tout le monde en a dans sa cuisine, que ce soit en poudre, et ça depuis très longtemps quand même. Moi, je me rappelle petite de ma mère qui sortait la poudre de gingembre pour faire du pain d'épices, pour faire des gâteaux, pour faire de la pâtisserie, mais aussi depuis quelques années, on en trouve dans le frigo de tous les Français, enfin en tout cas d'une bonne partie des Français entiers. Voilà, ce rhizome
biscornu,
oui. Qui a une drôle de tête, qui est pas très beau, mais qui est délicieusement bon et qu'on peut utiliser frais, qu'on met dans la cuisine. Donc oui, je pense que c'est une épice incontournable et qui est très différente des autres, je pense, parce que elle se marie avec le sucré, elle se marie avec le salé, elle fait voyager et en même temps, elle était pourtant très connue en France au Moyen-Âge et dans le passé. Et puis surtout, elle est très magique et puis elle fait fantasmer un petit peu puisqu'elle a cette réputation d'aphrodisiaque.
Olivier Rollinger, Mathilde Rollinger, disait dans l'extrait qu'on a entendu qu'il ne comprenait pas pourquoi le gingembre avait été oublié. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il a été oublié pendant longtemps ?
Il a été oublié parce qu'il y a un moment donné où finalement le poivre a détrôné, c'est bien expliqué d'ailleurs dans le documentaire, a détrôné finalement la place du gingembre.
Vers le 18e siècle. Hein,
vers le 18e siècle. C'est vrai qu'on le retrouve beaucoup en France au Moyen-Âge parce que c'est une épice qu'on retrouve à Venise, etc. Dans la cuisine française, on le retrouve évidemment dans le fameux mélange quatre épices à la française. Nos amis anglais, par contre, eux, ont perduré un peu plus longtemps dans l'utilisation l'utilisation du gingembre parce qu'ils en mettent à la fois dans les liquides, hein, ginger ale, dans la bière, dans le vin, et aussi dans différents biscuits, pains d'épices et toutes sortes de biscuits. Et on retrouve un petit regain aujourd'hui quand même de la place de gingembre, comme expliquait Lisa. Mais voilà, nos amis anglais l'ont moins longtemps délaissé que nous, français.
Pourtant, Hélène Ekman, c'est l'une des premières épices à avoir été transportée en Europe. Longtemps d'ailleurs, le gingembre a été plus répandu que le poivre, car moins cher. Comment est-il arrivé en Europe, on le sait ça? Par où? Ah, c'est plutôt Lisa Franjot. Alors, elle se partage la tâche, c'est bien. Vous êtes complémentaires l'une et l'autre. On vous entendra tout à l'heure.
Il est arrivé en Europe par la route des épices, bien sûr. Et puis, on a déjà des traces du gingembre qui était transporté par les Phéniciens, il y a près de 3000 ans presque. Même avant, à Rhodes, on parlait déjà de pain au gingembre. Le Coran le mentionne, des textes anciens de recettes. Du Moyen-Âge, si on regarde les recettes, dans la moitié des recettes, il y a du gingembre, c'était presque ce qui permettait d'épicer un petit peu les plats, de masquer les odeurs aussi, de masquer la farine rance ou la viande rance, et qui figure dans l'Hippocrate, hein, la boisson très connue du Moyen-Âge. Donc on ne se rend pas compte qu'il était sur toutes les tables importantes nobles de l'époque. C'était un mets de choix. Et il était plus important que le poivre. Et finalement, il était moins cher que le poivre, surtout. C'est surtout ça qui faisait qu'on le retrouvait un petit peu partout.
Mathilde Rollinger, Lisa disait à l'instant que le gingembre servait à épicer les plats. Quelles caractéristiques lui donneriez-vous, vous qui êtes quand même une spécialiste des épices, quelles caractéristiques, quel goût a le gingembre par rapport, pas seulement par rapport au poivre, parce que finalement il est très différent du poivre, même dans son utilisation. On parlera de la cuisine tout à l'heure, mais juste pour le caractériser. On le dit proche du citron, par exemple.
C'est vrai que, en fait, pour parler du gingembre en poudre, quand vous le sentez, les premières notes, un aspect citronné, camphré. Ensuite, quand vous allez mettre un petit peu de poudre sur votre main et le porter à votre bouche, le goût va avoir cette ambivalence du gingembre, le côté chaud et froid. C'est-à-dire que l'épice appartient à la grande famille des épices froides, mais en même temps, cette épice va apporter une chaleur. Donc, épice froide, parce qu'il y a avoir un côté frais, comme le citron, comme une espèce de mentholé de la cardamome, et en même temps, une chaleur piquant qui va nous rapprocher du poivre, mais de manière totalement différente. Et donc, c'est cette ambivalence de goût chaud-froid qui va nous transporter et qui va donner un aspect très dépaysant.
Et c'est cette chaleur, Hélène Ekman, ça on le voit très bien dans votre film, c'est cette chaleur qui peut donner cette sensation de sensualité, on va dire, et donc qui a fait que le gingembre est associé à une vertu aphrodisiaque. Or, vous dites dans le film que c'est un mythe. C'est pas un mythe, c'est un effet placebo plus qu'autre chose. Donc c'est la sensation placebo, de chaleur, c'est ça, non ?
C'est un leurre, c'est ça. On le consomme, et je pense que évidemment, c'est tout un imaginaire autour de ça qui s'est écrit. On aime peut-être bien y croire aussi. Et en fait, ce qu'on voit justement, dans ce qu'on comprend dans ce documentaire, c'est qu'en fait, oui, il s'agit que d'un effet placebo. Et que bon,
un mythe s'effondre.
Un mythe s'effondre. Après, on peut toujours essayer
si
verser un peu de gingembre le soir. En tout cas, ça ne fait pas de mal, c'est sûr. C'est toujours bon pour la santé.
C'est une façon de leurrer le cerveau. C'est-à-dire que c'est les mêmes symptômes, la chaleur, la salivation. Et donc, le cerveau, tout bêtement, pense qu'il y a une excitation sexuelle alors qu'on ne fait que manger du gingembre, en fait.
Alors, on va essayer de voyager un peu avec vous trois, puisque dans le film, vous avez voyagé. On va partir d'abord en Inde. En Inde, où Mathilde Rollinger, avec les épices Rollinger, va chercher son gingembre. L'Inde, c'est le plus grand producteur du monde, mais c'est seulement 2% des exportations. Pourquoi allez-vous le chercher particulièrement en Inde, Mathilde Rollinger, le vôtre ?
Parce que on trouve que il a une complexité de saveur assez incroyable due à son terroir. Donc on est au sud de l'Inde, sur la côte Malabar, et aussi parce que dans l'histoire, quand on regarde les ouvrages du XVIe siècle, notamment un certain Garcia da Horta, colloque sur les drogues de l'Inde et les simples, un livre de ce botaniste portugais, il nous explique que depuis toujours, les marchands considèrent que le meilleur source était d'Inde. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller le chercher là-bas.
Et vous nous en avez rapporté sous forme de poudre.
Exactement.
La poudre de gingembre. Alors là, c'est pas un mélange, c'est vraiment le gingembre que vous allez chercher en Inde, sur la côte Malabar.
Tel qu'il est travaillé, donc on est sur donc le gingembre qu'on
on va faire
dans
passer le petit flacon autour
c'est
de la table. Ils sont très forts.
C'est celui qui est aujourd'hui en poudre et tout ce travail de transformation, enfin déjà de récolte, de séchage et de transformation est accompli là-bas dans le sud de l'Inde par les fermiers qui font un travail remarquable et qui expliquent la qualité du gingembre. Parce que non seulement il faut avoir une bonne plante, mais derrière il faut avoir des personnes qui ont le savoir-faire et le temps de bien le travailler, de bien le transformer.
Mathéo est en train de mettre de la poudre de gingembre sur le plat de sa main. C'est comme ça qu'il faut goûter, Mathilde Rollinger ?
Oui, c'est ça. On prend une petite cuillère, on le met sur le plat de sa main, on le porte à sa bouche directement.
Oui, je confirme absolument la sensation entre le froid et le chaud, c'est-à-dire à la fois une fraîcheur mentholée, comme vous l'expliquez tout à l'heure, et en même temps un vrai épice du piquant.
Piquant, oui. C'est le piquant un peu astringent qu'en frais, oui, tout à fait.
Et vous expliquez aussi, Mathilde Rollinger, que vous ne trouvez que du gingembre cultivé, qu'il n'y en a pas ou plus de sauvage. Comment l'expliquer ?
Il faut vraiment la main de l'homme pour replanter le gingembre chaque année. Donc, au moment de la récolte, qui se fait de manière délicate, parce que on sort à la bêche les rhizomes sans les casser, et ensuite on prend les plus beaux rhizomes et on prend ceux qui commencent à avoir des petits bourgeons. Et les fermiers et les paysans vont en faire un tas qu'ils vont conserver jusqu'à l'année suivante et pour replanter dans la terre. Donc il faut l'intervention de l'homme. Et ce qui explique aussi l'adaptabilité du gingembre dans différents pays, c'est parce que c'est le fait qu'il se soit un rhizome et non pas une graine.
C'est le cas aussi en Chine, deuxième pays à produire massivement du gingembre. Hélène Ekman, vous êtes allée en Chine. Alors, ce qu'on voit dans votre film, c'est qu'en Chine, le gingembre est beaucoup plus gros. Il est très gros. Et les Chinois le stockent. 70% du gingembre qu'on mange, nous, en France, provient de Chine.
C'est ça, c'est le premier exportateur. Il le produit donc en masse, c'est des cultures massives qui n'ont rien à voir avec celles les indiennes ou même les péruviennes, donc qui elles sont plus tournées vers le bio. Mais en Chine, c'est ça, on va donc récolter au mois d'octobre les grandes quantités et ensuite on les stocke, que ce soit donc les usines qui les stockent dans des sortes de hangars et ensuite ils laissent le gingembre dans des boîtes en terre pour faire croire au gingembre en fait qu'il est toujours en fait sous la terre, ou alors c'est les petits fermiers qui ont en fait toute la campagne est parsemée de petites galeries comme ça qui sont en fait des caves souterraines 10 mètres qui font penser à des comme des mines et où en fait les paysans vont stocker tout leur gingembre et le garder jusqu'à 2-3 ans. Et en fait, comme ça, ils peuvent jouer sur les cours, créer la demande, jouer sur les prix, et ils maîtrisent complètement le marché du gingembre.
Et c'est pour ça qu'ils exportent quand même énormément. Lisa Fangeau, c'est industriel plus qu'artisanal, Inde, là où Mathilde Rollinger va chercher, ce qui explique aussi le prix qui change, bien entendu. Est-ce qu'il existe des fraudes? Parce que selon l'organisme de répression des fraudes, 35% des épices ne sont pas conformes. Alors est-ce que le fait de couper, c'est ce qui se passe en particulier avec les gingembres qui arrivent de Chine, une partie des gingembres qui arrivent de Chine, c'est qu'ils sont coupés avec d'autres épices. Le fait de couper avec d'autres, c'est un problème, ça, par exemple ?
Alors, il faut voir deux choses, en fait. En Chine, c'est des rhizomes qui sont très gros, très, très grands, parce qu'il y a aussi une modification génétique du gingembre pour qu'il soit plus fort, pour qu'il tienne plus longtemps et qu'il puisse rester plus longtemps dans ses caves.
Et qu'il soit homogène.
Et qu'il soit homogène, et que la production puisse alimenter le reste de la planète, presque, parce que c'est 70%, effectivement. Et ensuite, effectivement, sur le gingembre en poudre, comme toute poudre, en fait, comme d'autres épices, il est facile, quand on va aller acheter de la poudre à l'autre bout du monde et que ça passe par plusieurs intermédiaires, que pour des soucis de rentabilité, de prix, de facilité, malheureusement, se soit coupé avec d'autres choses. Oui, ça fait tout simplement baisser le prix.
Mais quelle est la différence alors entre couper avec autre chose, Mathilde Rollinger, et par exemple cette poudre sérénissima que vous nous avez apportée, où l'on trouve du gingembre, mais d'autres épices en même temps? Donc c'est un mélange. Quelle est la différence entre mélanger ou couper?
Oui, alors je pense que l'intention n'est pas la même. Hein. Le fait de couper le gingembre avec une autre caractéristique, c'est il y a une notion de tromperie.
C'est caché.
Voilà, c'est une notion de tromperie. Quand on achète une poudre de gingembre, on veut avoir 100% de matière gingembre. C'est vrai que nous, on a tout un travail sur les compositions d'épices avec un goût à la française. C'est un travail d'association d'épices entre elles pour faire des mélanges d'épices. Et donc, dans la poudre Sérénissima, effectivement, il y a ce gingembre d'Inde que l'on retrouve, mais également la baniguette et du safran. Et en fait, je voulais apporter pour vous montrer à quel point le gingembre, on parlait du goût tout à l'heure, il est vraiment porteur d'énergie. Et là, dans ce poudre Sérénissima qui est dédié à la Sérénissime, la ville de Venise, où transitaient les épices, justement, on voit comment ce tandem avec le safran, comment le gingembre vient porter une belle énergie au safran et à la baniguette.
Porteur d'énergie, ça n'est pas un mythe, contrairement à l'aphrodisiaque, aux vertus aphrodisiaques prêtées au gingembre. On va évidemment parler de cuisine, de comment on cuisine le gingembre. On va laisser passer la madeleine, on vous retrouve dans quelques minutes. Une madeleine plutôt sucrée, me semble-t-il.
Oui, j'ai retrouvé Alain Damasio qui voit son dernier roman « Les furtifs » adapté au théâtre la semaine prochaine à Grenoble dans le cadre du Festival Experimenta et puis bien plus tard en juin à la Comédie de Reims. Vous savez, « Les furtifs », c'est une plongée dans un 2040 dystopique où les villes sont privatisées et les vies des citoyens entièrement contrôlées et suivies par une technologie invasive. Et bien pour sa madeleine, Alain Damasio s'est éloigné de toute cette technologie, de son univers, pour revenir à un plaisir extrêmement simple, vous le disiez, ni chaud ni froid, mais plutôt sucré.
C'était ma grand-mère, donc ma grand-mère maternelle, et quand j'allais chez elle, donc c'était à Castelsarrasin dans le sud-ouest, elle faisait quelque chose de très simple au dessert. Elle prenait une pêche, elle l'épluchait entièrement, et elle la découpait en petits morceaux, et elle me la mettait dans un verre. Et moi j'avais l'habitude de manger des pêches, comme tout le monde, avec la peau, et je prenais le fruit, et je le croquais comme ça. Et là, il se passait quelque chose d'incroyable, c'est comme les pêches découpées, donc il y avait les petits morceaux de pêche comme ça qui étaient dans le verre. Et du coup, je voyais toute la chair qui était un peu jaune-rouge comme ça, légèrement saignante. Et je prenais à la fourchette chaque petit morceau de pêche dans le verre et je le mangeais. Et la pêche n'avait absolument pas le même goût que quand je la croque. Et j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi, quoi. C'est qu'en fait, il se passe un phénomène d'oxydation sur toutes les façades de la pêche découpée qui fait que l'air vient modifier vraiment les propriétés gustatives de la pêche. Et c'est 10 fois meilleur que de la manger juste comme ça. Et je mangeais ces pêches très juteuses qui dégoulinaient dans ma gorge comme ça. Donc ça coulait. Et chaque bouchée, je m'en souviens vraiment. Et quand tu croquais, ça fondait absolument. Et ça libérait une puissance vitale. Je sais pas, il y avait quelque chose d'énergétique, de solaire de cette pêche qui l'espèce de liquide, voilà, le côté extrêmement liquide que prenait la pêche, parce qu'elle fondait vraiment. Il y avait un côté, c'était des pêches très mûres qu'elle prenait. Donc on sentait beaucoup le sucre. Ça craquait pas, ça croquait pas du tout, hein, ça fondait dans la glotte. Et on sentait pas du tout la fibre. Non, il y avait vraiment un côté à la limite du confit, quoi. C'était normalement des pêches que tu devais utiliser pour faire de la compote à la rigueur, quoi. Tu l'écrasais d'une main la pêche, quoi. Il y avait un truc comme ça. Mais ça, c'était génial, justement. Moi, j'aimais beaucoup cette idée que j'avais pas un fruit structuré, j'avais pas un fruit que je devais avec les dents croquer. C'est pas une pomme du tout, c'était vraiment quelque chose qui. Et c'était une grand-mère qui était incapable de traduire ses émotions ou ses sentiments ou même le plaisir de nous voir. Elle nous accueillait de façon gentille, mais tu sentais pas qu'elle était forcément heureuse de nous voir. Et tout passait par la bouffe. C'est-à-dire que toute la générosité, tu la voyais dans le repas. C'était la rareté du moment qui faisait que c'était aussi beau et que j'en ai le souvenir. Donc ma fille, de temps en temps, à certains moments, tout d'un coup, je le fais. Et il y a le plaisir au petit-déj, au lieu de manger des cornflakes, de leur amener ça. Et je vois le bonheur, tu vois. Mais j'ai pas envie que ça soit, voilà, j'ai envie que ça soit rare. Quelque chose qui surprend, ouais. C'est un peu inouï, quoi, ouais.
Merci Matteo Caranta pour cette madeleine d'Alain Damasio. Pêche gingembre, ça doit être un bon alliage, non, ça? Parce que vous disiez, Lisa Fonjo, que finalement le gingembre se marie avec tout, sucré, salé.
Ah ben, moi j'adore le gingembre, donc je vais pas vous dire le contraire. Je l'adore partout, sous toutes ses formes, sucré, en carré, en poudre, frais, en jus. Donc oui, pêche gingembre, ça donne envie.
Mathilde Rollinger, pourquoi ne faites-vous pas du gingembre frais chez les Rollinger?
Ben c'est une idée justement, parce qu'en plus il y a quelques cultivateurs en Bretagne qui se sont mis à faire du gingembre frais, et pourquoi pas pourquoi pas en proposer dans
C'est une idée pour 2020,
C'est une idée parce que le goût du gingembre frais est totalement différent, puisque là, on a une attaque... alors, il y a encore... il y a une complexité, puisqu'il y a différentes variétés botaniques selon les pays, et le goût est totalement différent. Mais en tout cas, pour l'Inde, il y a une attaque... gingembre frais Inde a une attaque assez fraîche et citronnée, presque résine de pin.
Et qui se marie aussi très bien avec le poisson et les crustacés, comme on avait pu le voir avec votre père, qui nous avait cuisiné des choses exceptionnelles, d'ailleurs. Ouais, avec des produits de la mer et du gingembre, c'est assez étonnant.
Et de fait, vous qui avez voyagé donc pour ce film, Hélène Ekman, de fait, vous confirmez qu'il y a différents usages selon que le gingembre est frais, séché ou en poudre, et selon les pays.
Selon les pays, c'est-à-dire que donc ce gingembre chinois, justement, pour les triturateurs, c'est un gingembre qui est très uniforme au goût. Il n'est pas trop fort, la couleur est assez légère, justement, pour que finalement, d'une saison à une autre, ce soit toujours les mêmes couleurs qui arrivent dans les petits flacons de gingembre moulu. Le gingembre péruvien, lui, est beaucoup plus petit, déjà. Il est plus fort, il est plus citronné, il est plus... enfin, c'est vraiment un goût très différent. Et d'ailleurs, il a mis du temps à séduire, à convaincre. Ça doit faire peut-être une petite dizaine d'années, finalement, qu'il a conquis les chefs.
Ouais. Il y a le gingembre japonais aussi, qui est bien connu, qui est moins traité dans le documentaire, mais qui fait partie, qu'on appelle Gali, hein, qui est cette tranche qu'on connaît bien, un peu trop rose en France peut-être, mais qui est le condiment de la cuisine japonaise.
Elle permet de passer un plat à un autre, justement. Elle lave ce gingembre japonais, elle permet de laver le palais, justement, pour préparer un autre, à d'autres saveurs.
Et Mathilde Rollinger, j'ai ouï dire qu'il y avait un partage chez les Rollinger entre Olivier et Hugo, votre frère d'un côté, et puis vous et votre mère de l'autre, vous n'aviez pas la même façon de consommer le gingembre. Est-ce que cette information est juste?
Alors,
vous le mangez plutôt avec du fromage frais, des choux de Bruxelles, des courgettes, c'est pas le cas?
Oui, gingembre frais, j'aime beaucoup avec les revenus de... avec un sauté de courgettes. Alors, c'est pas trop la saison des courgettes en ce moment.
Non, pas trop.
Il faut peut-être plus partir sur un velouté de légumes d'hiver avec un peu d'ail. Ail et gingembre, ça fonctionne très bien. Soit on peut se dire, par exemple, pour un litre de soupe, il faut à peu près une cuillère à café de gingembre en poudre et une gousse d'ail. Et donc là, vous avez une soupe justement qui vous transporte ailleurs.
Vous pouvez faire d'ailleurs tout un repas avec le gingembre, puisque vous terminez avec du gingembre sur de la mousse de café. Ça, c'est la poudre kawa que vous avez apportée.
Oui, donc c'est une autre composition d'épices. On retrouve le gingembre avec de la cardamome et du clou de girofle. Et ce qui est amusant, c'est que la cardamome verte fait partie de la même famille botanique que le gingembre. Et cette cardamome verte pousse pas très loin du gingembre, puisque là où en Inde, justement, le gingembre pousse à côté de plein de caféiers, de rizières pas très loin, etc., sous forme un peu d'agroforesterie. Et la cardamome est à côté. Donc, dans ce mélange, le gingembre et la cardamome sont rassemblés. Et si on saupoudre effectivement sur le café, l'accord café-cardamome est un grand classique, hein, surtout dans le Moyen-Orient. Mm. Fonctionne très, très bien. Et voilà, sur votre café le matin, soit expresso, soit infusé, ça fonctionne.
Et ça réveille doublement. Accompagner cette formidable tourte qui nous tend les bras et que Mathéo découpait au début de cette émission, qui est en fait une recette de votre mère, Mathilde Rollinger, compotée de fruits, pommes, poires, citrons, au gingembre évidemment.
Voilà, poudre de gingembre. Donc c'est une recette de ma mère que j'ai faite. Alors peut-être les résultats vont pas être aussi bons, mais voilà, c'est une cuisine plus de femmes pour... enfin, il faut pas... trop faire de ségrégation, mais plus pour la maison. Et c'est vrai que mon frère et mon père sont plus en une cuisine sophistiquée, élaborée.
De la restauration, on va dire.
Voilà, différentes cuisines d'auteur.
Et ben nous, on aime aussi la cuisine à la maison. D'ailleurs, la recette, on la mettra sur notre site, hein, sur la page des bonnes choses sur franceculture.fr. Mais en attendant, nous allons déguster la vôtre que vous nous avez très gentiment apportée. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues dans ces bonnes choses. Restez à l'écoute pour la cerise sur le gâteau. Je rappelle juste que le documentaire d'Hélène Ekman et Lisa Fongeau sera diffusé ce soir à 20h50 sur France 5 et qu'il s'intitule tout simplement Le gingembre 2. L'épice magique ? Allez, c'est l'heure de la cerise sur le gâteau. La profession de boulanger, donc, mon cher Pierre.
Et oui, cette semaine, Caroline, je voulais revenir sur un salon annuel professionnel qui vient de fermer ses portes à Paris et qui s'intitule Europain. Non pas que je veuille ennuyer nos auditeurs avec les dernières tendances en matière de four à chariot rotatif ou de pétrin à spirale, mais parce que tous les 4 ans, à Europain, on a droit à la Coupe du Monde de boulangerie. Je suis sûr, Caroline, que vous demandez comme moi comment un simple mélange d'un peu d'eau, de farine, de sel et de levure que vous pouvez facilement faire chez vous peut faire l'objet d'une telle ambition sportive. Et là, je me vois d'abord obligé de vous rappeler quelques données chiffrées pour que l'on se rende bien compte du poids de la baguette, ou plutôt des, accrochez-vous, 6 milliards de baguettes qui sortent chaque année de nos 32 000 boulangeries-pâtisseries.
C'est beaucoup.
Oui, bref, compte tenu de cette culture gastronomique sans équivalent, on se demande bien pourquoi organiser un championnat du monde alors que le titre devrait nous être attribué d'office. Et c'est là où mon intérêt pour cette compétition s'est aiguisé, quand j'ai découvert que cette année, nous n'avions pas atteint le podium, qu'en 2016, nous arrivions seulement troisième derrière la Corée et Taïwan, et qu'en 2012, ce fut l'humiliation absolue avec en or, argent et bronze, respectivement, le Japon, les États-Unis, rendez-vous compte, et encore Taïwan. Et c'est fort de ces résultats minables que j'ai dû me rendre à l'évidence. Entre le quantitatif et le qualitatif, il y a visiblement un truc qui a dû échapper aux Français et auquel d'ailleurs les organisateurs d'Europe 1 ont répondu préventivement à l'ouverture de leur salon. Ils ont en effet annoncé quelque chose d'important, la création d'un nouveau label de qualité pour protéger les artisans des chaînes et des industriels, avec un logo que vous allez donc bientôt pouvoir voir, Boulanger de France. De quoi s'agit-il? Je dirais d'abord à l'attention de nos jeunes auditeurs qui auraient fait sauter le cours d'histoire de la boulangerie qu'en la matière, il y a deux périodes que je qualifierais de pré- et post-Raffarin. D'une honte à un Premier ministre qui, en 1998, a fait voter une loi qui réserve l'appellation boulanger aux professionnels qui fabriquent et vendent sur place sans surgélation. Mais Caroline, je suis sûr que quand vous achetez votre pain, il vous arrive parfois d'acheter un petit croissant, une quiche ou une tarte.
Très rarement.
Aïe, alors si vous le faites, le problème, c'est que vous ne pouvez pas retourner la chose pour y déceler un « made in » quelque part. Parce que si c'était le cas, vous pourriez découvrir que certains fonds de tartelettes de votre artisan boulanger préféré sont faits en Chine. Alors vous allez me dire, c'est bingo, puisqu'ils sont désormais champions du monde. Certes, mais vos fonds de tartelettes achetés ici, ils sont fabriqués là-bas, par des machines et non par des hommes. Et donc ce nouveau label va nous permettre de vérifier que notre boulanger fabrique bien son pain Raffarin sur place, mais également la pâtisserie. Et pour faire bonne mesure, celui-ci devra également s'engager dans une démarche sociétale et environnementale. Alors parions que si l'on améliore les savoir-faire de nos boulangers, nos chances au championnat du monde de 2024 sont enfin sérieuses.
C'était la chronique de Pierre Hiverna qu'on retrouve bien sûr sur notre site internet, sur la page des bonnes choses et sur le site d'Alimentation Générale. Les bonnes choses se poursuivent en réécouté en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Roxane Poulain, Mathéo Caranta, Jean-Christophe Francis à la réalisation et notre technicienne du jour, Élise Leu, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weitzmann.